qu'on a vraiment, pendant tout l'ouvrage, été considérés comme des experts dans nos classes et pas des enseignants parce qu'il faut faire des séances, on a demandé à des enseignants parce que ça fait bien sur le papier de dire que ça a été fait par des enseignants. Pas à aucun moment. C'est-à-dire qu'on a vraiment été considérés comme ceux qui, sur le terrain, en termes de pédagogie, étaient ceux qui apportaient leur expertise, qui avaient besoin de l'expertise des scientifiques parce que c'est l'objet de l'ouvrage, mais qui ne se prenaient pas non plus pour des scientifiques.
Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Un podcast pour les parents, les professeurs et les éducateurs Montessori qui veulent plonger dans les neurosciences et la pédagogie Montessori. Je suis Céline Guerrero, maman, prof des écoles en dispo, réalisatrice de ce podcast et prête à tout pour que chaque enfant développe son plein potentiel. Pour ce faire, je forme les adultes à la pédagogie Montessori et je propose des outils aux parents et aux enfants qui sont scolarisés en école traditionnelle. Vous pourrez découvrir ma formation Montessori Neuroéducation sur mon blog montessori-apprendreautrement.com. J'ai également la chance de travailler avec l'équipe d'ERA Montessori. C'est un organisme de formation qui propose des formations de grande qualité avec un accompagnement pédagogique individualisé. Pour devenir éducateur Montessori, rendez-vous sur formationeramontessori.com. Je crée aussi des outils pour les parents et les enfants des écoles traditionnelles. Mon programme « Apprendre à apprendre à la maison pour mieux réussir à l'école » et « Je mémorise la conjugaison » s'adresse aux enfants du CE1 au CM2. Si ce podcast vous plaît, je compte sur vous pour partager les épisodes qui vous plaisent avec vos amis et vos collègues et pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Et une note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuer vous aussi à développer le plein potentiel de chaque enfant. Bonjour Émilie, bonjour Jérôme, bienvenue sur le podcast aujourd'hui.
Bonjour Céline.
Bonjour Céline.
Alors, c'est pas la première fois que je vous accueille sur le podcast. Jérôme, je t'avais interviewé dans l'épisode 65 et Émilie dans l'épisode 73. Donc, pour les auditeurs qui n'ont pas écouté ces épisodes, est-ce que vous voulez déjà prendre le temps de vous présenter on va déjà commencer par une petite présentation individuelle. Émilie, si tu veux commencer.
Émilie de Combec, donc moi je suis professeure de lettres modernes au Collège Jean et à Marennes, donc en Charente-Maritime, les Huîtres, dans l'Académie de Poitiers. Et je suis également présidente de l'association Neurosciences Marennes qui organise le festival Cerveau-Dyssée qui mêle les arts et les neurosciences. J'ai passé un DU en neuroéducation avec l'Université de Paris. Et bien sûr, je suis membre du conseil d'administration de l'équipe de Jean-Luc Berthier Apprendre et former avec les sciences cognitives. Et donc, autrice chez Nathan.
D'accord. Et Jérôme, est-ce que tu peux aussi prendre le temps de présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît?
Alors moi, Jérôme Hubert, enseignant de mathématiques dans un collège rural en Picardie. C'est pas les huîtres, c'est la patate en Picardie. Et j'ai été là-bas pendant très longtemps coordonnateur REP, coordonnateur de réseau dans mon secteur. On est dans un secteur qui est socialement en difficulté. Et puis, en étant coordonnateur REP, je m'intéressais aux pédagogies un peu alternatives, aux nouveaux projets. C'est comme ça que je me suis mis dans les sciences cognitives en rencontrant Jean-Luc Berthier lors d'un gros projet qu'on avait mis en place de maternelle à troisième sur les robots. Et puis, je me suis plongé dedans à tel point que j'ai créé une coniclasse depuis 2017. Et puis, comme Émilie, j'ai passé le diplôme, le DU neuroéducation à Paris Descartes. Et puis, la coniclasse, c'est pour ça que j'étais interviewé dans le dernier podcast, c'est parce que la coniclasse a remporté un prix cherchant en maths du CESEN, du Comité scientifique de l'éducation nationale, une coniclasse qui s'appelle Maths ta mémoire. Et on avait travaillé en équipe, vraiment, sur comment on fait un cours pendant une heure en essayant de mettre en place les techniques inspirées par les sciences cognitives. Et donc ça a été remarqué, on a été très contents là-dessus. Et puis maintenant, auteur avec Émilie d'un nouveau ouvrage qui va sortir, et c'est pour ça qu'on est ici.
Voilà, ça allait justement être ma question suivante. Pourquoi sommes-nous là tous les trois aujourd'hui? Donc vas-y Jérôme.
Alors, suite au DU de neuroéducation, on a été appelé avec Émilie il y a un an pour écrire 6 séances clés en main dans le cadre d'une recherche collaborative avec Marie Létang, qui est chercheur au laboratoire Paris Descartes, de Grégoire Borst. Elle a voulu mettre en place une recherche collaborative pour mesurer en fait l'impact que 6 séances peut avoir sur la connaissance des élèves, enfin, sur les connaissances des élèves sur le cerveau et sur les représentations de l'intelligence des élèves. Donc, on nous a demandé de créer 6 séances avec Émilie et puis ensuite de les faire tester en classe, voilà, dans les classes dans toute la France au niveau collège. Émilie, tu veux peut-être compléter un peu?
Oui, c'est ça. C'est lié à la plateforme lia.fr qui proposait jusqu'à présent, surtout pour le premier degré, des animations pédagogiques, des recherches participatives, et qui s'ouvre de plus en plus au collège. Et donc, c'est dans ce cadre-là. Et on a eu, Jérôme, je ne dis pas de bêtises, plus de 200 enseignants qui ont suivi cette expérimentation, donc qui ont fait les pré-tests dans les classes, qui ont mis en place les 6 séances pédagogiques que nous avions rédigées et qui avaient été bien évidemment revues par l'équipe du LabCD, puis des post-tests, un post-test immédiat et un post-test différé. Et les résultats de cette recherche ont été probants, suffisamment pour qu'on se dise ça vaut vraiment le coup de développer davantage de séances. Et donc, on est passé d'un parcours de 6 séances à, là, on a rédigé 55 séances qui abordent le cerveau qui apprend, l'attention, la mémorisation, l'inhibition, les émotions. Et la particularité, c'est que c'est du pré-enseigné. Enfin, c'est l'enseignant a un document pour lui qui le guide dans comment mener sa séance. L'élève a un document, lui aussi. L'enseignant a accès à la correction. Il y a un diaporama animé à projeter en classe. Et bien sûr, les vidéos, les petites capsules vidéo par séance qui permettent de recentrer les essentiels. Et puis, ça descend aussi puis l'enseignant sur certains contenus. Donc, ça permet de faire des séances de 15 à 45 minutes en fonction de la séance, mettre en place très facilement en classe parce que c'est du pré-enseignement.
Ouais, ce qui est intéressant, en fait, c'est que ce livre, il ne sort pas nulle part, en fait. C'est que vous avez déjà testé les 6 séances avec 200 enseignants et puis prouvé, enfin, du coup, c'est cette recherche-collaboration a montré qu'il y avait un impact sur les élèves et du coup, ça s'est transformé en livre. Et c'est cette démarche-là qui est assez novatrice, je pense. Enfin, avec Léa.fr, voilà, quand on connaît Léa.fr, on sait que voilà, c'est leur façon de fonctionner. Mais on peut dire, dans le monde de l'éducation de manière plus générale, j'ai l'impression que c'est assez novateur.
Oui, et puis en plus, il y a une forte participation. Hein. En fait, c'est 265 enseignants, c'est 530 classes, c'est 2400 élèves. Et puis, on a beaucoup échangé sur la plateforme Léa.fr avec les collègues et ils ont été très intéressés par ces séances clés en main. Parce que c'est pas évident de mettre en place des temps en classe pour expliquer aux élèves les méthodes et outils pour apprendre. En fait, c'est vraiment ça. On est dans le domaine 2 du socle commun, là. Et peu de collègues s'engagent dans ce domaine parce qu'ils savent pas toujours comment et puis quoi transmettre. Et donc là, on propose une solution. Donc, ce départ, des 6 séances. Mais comme 6 séances n'étaient pas suffisantes, on voit bien que pour une heure expliquer la mémorisation, une heure l'attention, les collègues ont besoin de plus. Mais c'est un début. C'est un début pour des collègues qui savent pas trop comment faire. Bon, on peut démarrer déjà par ces 6 séances-là. Mais si on veut aller plus loin, nous, on propose dans ce livre-là 55 séances vraiment clés en main et qu'on détaille davantage ce qu'on va dire.
Votre chien est d'accord. Enfin, ton chien est d'accord, Jérôme.
C'est ça.
L'idée, Céline, c'est que Jérôme, comme moi, mais comme beaucoup d'enseignants, quand on s'est intéressé aux sciences cognitives, alors, quelle que soit la porte d'entrée, que ce soit par une porte pédagogique, que ce soit par un intérêt personnel, etc. On est souvent séduit par, même convaincu par la théorie, en se disant waouh, c'est effectivement ça, il va falloir que je le mette en place. Et la bascule de la théorie à la pratique, elle n'est pas simple, parce qu'elle demande un investissement temps et faut se plonger dans des contenus assez ardus quand même, quand on découvre, quand on n'a pas eu de formation scientifique notamment. Et l'idée, c'était de proposer aux enseignants ce que peut-être nous, on aurait aimé trouver il y a quelques années quand on a commencé à s'intéresser aux sciences cognitives. Alors, il y a le dispositif ConiClass, tous les deux, on est pilote dans ce type de classe avec des outils pédagogiques. Et l'idée, c'était d'aller un petit peu plus loin dans l'axe former les élèves à leur cognition. Vraiment des séances à destination des élèves. Le but derrière tout ça, c'est bien sûr lutter contre les inégalités. Dans l'ouvrage, Grégoire Borst, qui a coécrit l'ouvrage avec nous, le directeur du laboratoire du LabCD, introduit vraiment l'ouvrage en parlant de ça. C'est à quoi ça sert de faire ça. Alors, ça sert pour l'élève, sur sa représentation de l'intelligence, etc. Mais l'idée, c'est de fournir à tous les élèves les méthodes et les outils les plus efficaces, que ce ne soit pas que certains, parce qu'à la maison, parce que telle école a permis de faire ça, mais c'est de pouvoir diffuser ça au plus grand nombre, parce qu'on sait que l'école a encore pas mal de choses à régler côté inégalité. Et ce n'est peut-être pas la solution miracle, mais en tout cas, c'est une porte qui n'avait pas franchement été passée par les enseignants en général. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir simplement proposer des pistes faciles à mettre en place pour, petit à petit, rendre l'école moins inégale. Mmh.
Et est-ce que vous pourriez nous parler des résultats de cette recherche ? À l'époque où il n'y avait que les 6 séances, est-ce que vous avez eu connaissance des résultats des recherches et vous pourriez nous en parler un petit peu ?
Oui, tu les as, Jérôme ?
Pas là tout de suite, là, mais en fait, non, ce que Marie-Létang dit, c'est que les résultats sont significatifs sur les connaissances des élèves sur le cerveau. Donc, par exemple, le cerveau, est-ce qu'il peut faire plusieurs choses à la fois ? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Et puis, on a eu aussi un changement dans l'état d'esprit des élèves. C'est-à-dire qu'en fait, la recherche a montré qu'il y avait deux grands états d'esprit, deux représentations de l'intelligence, c'est-à-dire un état d'esprit fixe où on pense que finalement, on est nul parce que voilà, je suis comme ça, je suis nul, j'y arrive pas, je fais plein d'erreurs. Des fois, renforcé par les parents hein, qui le disent, moi je suis nul en maths, c'est normal que mon enfant il soit nul en maths. Et puis, un autre état d'esprit qui est un état d'esprit dynamique, où là, en fait, on se dit, si on fait des erreurs, c'est pas trop grave, alors à condition de pas trop en faire, hein, mais c'est fait pour progresser, c'est une étape dans l'apprentissage. Et donc, l'idée de ces 6 séances-là, c'était, est-ce que ça permettait pour certains élèves qui avaient un état d'esprit fixe de basculer vers un état d'esprit dynamique ? Et c'est là où, en tant qu'enseignant, on a besoin du monde de la recherche, parce que ça, nous, on n'est pas capable de le faire en tant qu'enseignant. Et les chercheurs ont à disposition des questionnaires, déjà pour avant, dans le cas du pré-test, pour savoir effectivement si les élèves ont un état d'esprit plutôt fixe ou un état d'esprit plutôt... Alors, j'ai dit dynamique, mais en fait, c'est plus de changement, dynamique ou de changement. Et donc, dans le pré-test, il y avait ce questionnaire-là. Les 6 séances et le post-test plus tard ont montré qu'en effet, on avait réussi à basculer certains élèves d'un état d'esprit fixe à cet état d'esprit de changement. La difficulté pour nous, c'est qu'on avait interdiction d'en parler pendant ces 6 séances-là. À aucun moment, on a parlé d'état d'esprit fixe ou dynamique. Donc ça, c'est Marie-Létang et Rouvard-Borst hein, qui ont regardé ces 6 séances-là. Donc, il y a vraiment eu un petit transfert qui s'est établi. Et bien sûr, dans les 55 séances, c'est ce qui nous a vraiment manqué avec l'IMI. On a créé vraiment deux séances. Il y avait deux séances vraiment sur l'état d'esprit, sur le rapport à l'erreur, où là, on explique très explicitement... ce que c'est que ces deux états d'esprit, ces deux représentations de l'intelligence. Mmh. Mais voilà, il y a des résultats significatifs par rapport à ces 6 séances.
D'accord.
C'est bien que tu retrouveras le lien vers lea.fr ainsi que la pièce jointe où il y a les graphiques avec les résultats plus précis.
Ah oui, donc je pourrais partager le lien dans les notes de l'épisode pour les auditeurs. Et ces 6 séances sont toujours accessibles, j'imagine.
Non.
Non ? Ah non.
En fait, les 6 séances ont été accessibles le temps de l'expérimentation.
D'accord.
Là, dans l'ouvrage, on a eu une contrainte. Aujourd'hui, ce que nos éditeurs et éditrices plutôt nous ont dit, c'est que pour préparer un livre, le papier, pour publier le livre, se commande 6 mois à l'avance. Et donc, nous, on était sur un format de 208 pages. Et 208 pages, ce n'est pas 209 pages. Et ce qui fait que, au fur et à mesure qu'on a avancé avec Jérôme, on a écrit, au début on était parti sur 40, puis 42, puis 45, puis. Et en fait, on se dit, mais il y a encore plein de choses à dire. Et donc, de ces 6 séances, on en a fait 6 grandes parties dans l'ouvrage. Donc, chaque séance est déclinée en 6 à 10 séances, on va dire. Ça dépend des parties. Et quand on a voulu intégrer le parcours d'initiation, donc les 6 séances de l'année dernière, eh ben, il n'y a pas cette place. Donc, les collègues qui achèteront l'ouvrage auront accès aux nouvelles séances dans l'ouvrage. Et sur lea.fr, ils auront accès aux 6 séances de l'année dernière.
J'espère que j'ai été très claire. Si, tu as été très claire.
Comme c'est déjà un ouvrage qui est hybride, c'est-à-dire sur lea.fr, ils ont accès au diaporama, enfin léa.fr ou la plateforme léa.fr, etc. Mais il y aura le diaporama en ligne, les vidéos. Et donc, il y a des ressources. On ne pouvait pas mettre un diaporama dans l'ouvrage. Donc, il y aura des ressources en ligne et le parcours d'initiation. Donc, celui qui permet de balayer les grands thèmes en 6 séances sera accessible en ligne. Et après, pour des séances un petit peu, les nouvelles séances, pour les collègues notamment qui ont fait l'expérimentation, ça sera dans l'ouvrage.
D'accord. Et Jérôme, je ne crois pas... Oui, pardon, vas-y Jérôme.
Oui, c'est vraiment un vrai parcours de 6 séances, c'est-à-dire qu'ils sont reliés par rapport aux autres séances. Alors, dans les 55 autres séances, hein, enfin dans les 48 du coup, 49, il y a, les séances sont un petit peu indépendantes. Alors, certaines sont obligées de faire d'autres précédemment, mais on a essayé de le faire le plus, des séances le plus solitaires possible. Mais ces 6 séances-là sont vraiment liées. C'est-à-dire qu'au départ, lorsqu'on est dans la séance 2, on va démarrer par des petites questions qui sont en lien avec la séance 1. Quand on est dans la séance 3, on va démarrer aussi par des petites questions dans la séance 1 et 2. Donc c'est pour ça que c'est un vrai parcours par rapport à toutes les autres séances. Et bien entendu, que ce soit pour les 55 séances, on a respecté tout ce qu'on nous dit dans les séances community, hein, en termes d'attention, documents écurés, des vidéos attrayantes mais pas distrayantes, l'idée d'engager activement les élèves en faisant des pauses dans les vidéos pour pas qu'ils soient... en surcharge cognitive non plus, des temps de mémorisation aussi, hein, dans les séances, dans ces 6 séances du parcours. On a à la fin une fiche de mémorisation active, hein, pour ceux qui ont les commis classe connaissent, hein, ces colonnes questions, colonnes réponses, qui synthétisent finalement la séance, et qui va permettre une réactivation pour les séances d'après.
Et Jérôme, dans ta présentation, je suis pas sûre que tu l'aies dit aujourd'hui. Est-ce que tu as parlé de ta chaîne YouTube et de tes vidéos pour les...
Non. Alors non, parce que c'est vrai que depuis un an, j'ai pas posté vraiment de vidéos parce que j'ai plein de projets. Donc ce projet-là d'écriture de l'ouvrage, et puis un autre très gros projet qui arrivera aussi dans l'année, qui s'appelle Atoline, un gros projet sur l'attention. En collaboration avec Jean-Philippe Lachaud, qui reprend un petit peu Atoll, Adol, la magie de la concentration. Mais ça, on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard. Mais je suis sur des gros, gros projets. Et du coup, dans l'ouvrage, il y a 55 séances, mais ça correspond à 40 vidéos. Donc, les trois quarts des séances seront des vidéos. Et une vidéo de 3-4 minutes, c'est à peu près une trentaine d'heures de travail, quoi. Donc, c'est... Ça prend beaucoup de temps, donc je me suis vraiment consacré sur cet ouvrage. Mais oui, il y a la chaîne YouTube Cerveau Mode d'Emploi, hein, qu'on peut retrouver facilement sur Internet. Hein. Il y a une cinquantaine de vidéos à disposition pour tout le monde qui balaient vraiment les grands champs des sciences cognitives, qu'il ne faut pas hésiter à utiliser, à partager. Il y a tous les jours entre 5 et 10 abonnés de plus. C'est une petite chaîne qui monte. On a 5200 abonnés. Je crois qu'on a plus de 350 000 vues. Donc ça monte petit à petit, je suis content, mais c'est vrai qu'une fois que ces deux projets-là sont terminés, je vais recommencer un petit peu à recompléter la chaîne.
Ouais, il y a déjà de quoi faire, hein, quand même.
Oui.
Et du coup, j'aimerais essayer de comprendre votre... Donc c'est une proposition qui vous a été faite, mais quelles étaient vos motivations, en fait? Pourquoi, quand vous avez accepté d'écrire cet ouvrage... qu'est-ce que vous vous êtes dit? Est-ce que ça vous a... Pourquoi ça vous a plu? Pourquoi vous vous êtes senti motivé et vous êtes allé au bout?
Je pense qu'on avait senti à travers les 6 premières séances que ça répondait à un vrai besoin, parce que les retours, Marie Létain avait proposé un retour qualitatif auprès des enseignants qui avaient participé, et nombreux étaient ceux qui disaient on aimerait plus de séances pour approfondir tel thème. Et donc, on s'est dit, bon, il y a une vraie demande. Il y a beaucoup de formations maintenant sur les sciences cognitives, mais pas forcément sur ce point-là, c'est-à-dire comment on apprend aux enfants à apprendre, aux élèves. Et donc, on a eu le sentiment que ça pouvait répondre à une vraie demande et que si chaque enseignant dans son coin crée des séances comme ça, sans les mutualiser, sans qu'il y ait un regard scientifique, parce que là, c'était pour nous... très important et très précieux d'avoir Grégoire Borst et Marie Létang qui regardaient chaque séance, chaque mot de vocabulaire. On a dû réécrire des séances, hein. On n'a pas écrit des choses parfaites du premier coup parce qu'on est enseignant et qu'on part du terrain. Et on avait besoin de leur regard pour être sûr que ce qu'on allait dire était scientifiquement valable. Et pour nous, ça, c'était très important. Et en même temps, eux sont très intéressés par notre regard parce qu'on est des vrais profs dans de vraies classes, avec des vrais élèves et des vraies problématiques de classe et comment on peut mettre en place ces séances. Donc, on trouvait qu'on était vraiment... ça me permettait d'être à l'interface dans cet ouvrage qui mêle et des scientifiques et des enseignants entre la classe et le labo. Et pour nous, c'était... on a l'impression qu'on répondait à une vraie demande. Et en plus... avec Jérôme, de temps en temps, on se dit « Ah, cette séance, vraiment, tiens, je vais la tester demain. Elle a l'air... J'ai envie de la tester, celle-là. » On a nous-mêmes testé. Alors, pas toutes nos séances, hein, parce qu'on n'a vraiment pas eu le temps. Et puis, parce qu'on doit faire court, quand même, à côté. Mais il y a des séances où on s'est dit « Ah oui, tiens, celle-là, dans ma classe, particulièrement, ce serait bien que je la fasse, parce que ça... Il y a un vrai besoin.
Mmh. » Et c'est vrai que...
Et puis...
Oui, Jérôme, vas-y.
Non, et puis, c'est vrai que, moi, c'est quelque chose que je fais depuis des années... expliquer aux élèves le fonctionnement du cerveau, mais j'étais pas encore satisfait de la façon dont je le faisais, parce que, par exemple, là, dans l'ouvrage, on propose une trace écrite pour chaque séance, quelque chose que je faisais pas. Et donc, l'année prochaine, je voudrais vraiment mettre en place un vrai cahier sur le fonctionnement du cerveau, et là, parmi cet ensemble de séances, j'ai vraiment la possibilité d'avoir des choix, et puis de vraiment construire mon cahier et avoir cette trace écrite, qui me paraît... là, après plusieurs années d'essai, indispensable pour moi. En tout cas, je voudrais vraiment l'essayer.
Mmh. Et j'ai plein de questions qui arrivent en même temps. J'espère que je ne vais pas en oublier. Oui, je voulais rebondir sur ce que tu disais, Émilie. Grégoire Borse dit souvent, parce que je fais le DU en neuroéducation cette année, donc je l'entends souvent dire, je ne suis pas un expert de la classe. Et c'est ça qui est super intéressant, en fait, c'est de faire ce pont entre le labo et la classe, hein, je trouve ça super intéressant, en fait. Et c'est, ça fait que quelques années que ça existe.
Oui, et
ce qui est intéressant... Ah, vas-y.
Le constat qu'on a fait avec Jérôme, c'est que vraiment, pendant tout l'ouvrage, étaient considérés comme des experts dans nos classes. Et pas des enseignants parce qu'il faut faire des séances, on a demandé à des enseignants parce que ça fait bien sur le papier de dire que ça a été fait par des enseignants. Pas à aucun moment. C'est-à-dire qu'on a vraiment été considérés comme... ceux qui, sur le terrain, en termes de pédagogie, étaient ceux qui apportaient leur expertise, qui avaient besoin de l'expertise des scientifiques parce que c'est l'objet de l'ouvrage, mais qui ne se prenaient pas non plus pour des scientifiques. Enfin, chacun était à sa place de façon juste et ce qui a permis des allers-retours et une certaine horizontalité entre tous les interlocuteurs, alors qu'on n'est pas du tout dans les mêmes milieux, on ne travaille pas on ne travaille pas nous dans des labos de façon précise, etc. Et cette plateforme, Léa.fr, et notamment Marie Létang, qui sait faire ça très très bien, ce dialogue, faire dialoguer les différents acteurs, c'était vraiment pour nous une chance. Et il y a une vraie considération du travail de chacun. Et pour nous, ça, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Je sais pas ce que t'en penses, Jérôme.
Mais c'est exactement ce que j'allais dire au départ. Et on a pu créer vraiment, nous, des séances telles qu'on l'imaginait dans nos classes, telles que vraiment on avait envie. Et en plus, avec le regard croisé avec Émilie, on a tous les deux analysé cette séance. Et quand on était en manque, parce que par exemple, on a la dernière partie sur les émotions, c'est vrai qu'il nous manquait un peu de données scientifiques, et ben on a fait appel à Grégoire Borse, qui nous a tout de suite donné des solutions par rapport à ce que nous, on ne trouvait pas, en fait, scientifiquement. Et c'est là où c'était agréable, c'est vraiment le labo à la classe et la classe du labo. On a vraiment senti des deux côtés, en fait. C'est vraiment
un ouvrage dans les deux sens, quoi.
Dans les deux sens, ouais. Ouais. Écrit vraiment, comme le dit dans l'introduction, Grégoire, écrit à six mains. Et ça, nous, on l'a vraiment ressenti avec lui.
Ouais, c'est ça qui est chouette. Et d'ailleurs,
quand on est enseignant, tu vois, il y a une telle manne au niveau des travaux de recherche scientifique, savoir faire le tri, savoir... qui a fait l'objet de méta-analyse, etc., c'est pas notre job. C'est pas, nous, au quotidien, on peut pas faire ça, parce qu'on a nos classes, parce qu'on a nos cours, etc. Et savoir ce qui fait vraiment consensus, notamment, effectivement, sur les émotions, parce que sur la mémorisation, l'attention, c'est des choses qu'on met en place déjà depuis plusieurs années, chacun dans nos classes. Mais tu vois, même sur l'inhibition, on commence à mettre des choses en place, mais c'est tout doux. Et alors, sur les émotions... On trouve tout et n'importe quoi sur Internet et on ne voulait pas proposer du tout et du n'importe quoi parce qu'on avait un garant scientifique. Et là, c'est là où, effectivement, Grégoire a pu nous apporter des solutions qui étaient pour nous concrètement transposables en classe parce qu'il y avait aussi ce souci, c'est-à-dire qu'on ne peut pas... on a fait des choix qui ont été entendus, sur le fait de pas utiliser un vocabulaire trop complexe non plus, parce qu'on s'adresse à des collégiens. On sait bien que ce ne sera pas leur priorité absolue de connaître les différents lobes, etc. Donc, sans simplifier dans le sens où on ne veut pas rendre les choses lisses, en parlant de façon scientifique, mais en même temps en rendant les choses audibles et compréhensibles, et pas mettre les collègues dans une situation où eux-mêmes ne maîtrisent pas les concepts qu'ils présentent.
Et vous parliez de Marie Létang, vous pourrez écouter son interview, ça sera le 112e épisode. Voilà, je l'ai déjà interviewée, mais je le garde et ça sera le 112e. Voilà. J'ai pu aussi échanger un peu avec elle dans le cadre du DU. Donc ouais, c'est vraiment super qu'elle ait ce rôle, voilà, de faire la passerelle entre du labo à la classe et de la classe au labo. Avant d'écouter la prochaine question que je vais poser à mon invité, je voulais vous partager mon état d'esprit et vous emmener dans les coulisses du podcast. J'ai publié le premier épisode en novembre 2019 et depuis, j'ai publié plus d'une centaine d'épisodes. Je prends beaucoup de plaisir à échanger avec mes invités et je suis ravie de savoir toute la valeur que cela vous apporte. Le nombre d'écoutes augmente, je reçois quelques remerciements, mais très peu de commentaires ou de questions ou de propositions pour les prochains invités. Je me suis demandé si je n'allais pas arrêter, mais en même temps, j'ai envie de continuer. Mais toutes mes activités bénévoles me prennent beaucoup de temps et d'énergie. Vous pouvez faire le calcul, 106 épisodes, entre 4 et 5 heures de travail par épisode. Aujourd'hui, j'ai besoin de votre soutien. Si vous écoutez régulièrement le podcast et si vous êtes conscient de la valeur que cela vous apporte, vous pourrez soutenir mon travail en vous abonnant pour 5 euros par mois. Vous trouverez le lien pour soutenir le podcast dans les notes de chaque épisode. Et maintenant, retournons à notre épisode du jour. Et j'ai une question par rapport au temps. Pas au temps qui nous reste sur Zoom, hein, même si... Voilà. Par rapport au temps que les collégiens, enfin que les profs de collège... je me dis comment... Enfin, le temps, c'est toujours une problématique. Et je me dis qu'un des... Ce que des profs de collège pourraient dire, c'est « Oui, mais moi, j'ai pas le temps, j'ai le programme à faire. » Donc, qu'est-ce que vous répondez à cette objection?
Alors, il y a les temps de vie de classe. Il y a les temps de devoirs faits, les temps d'aide aux devoirs. Il y a tous ces temps-là où on peut réaliser ces séances-là. Ensuite... On a expliqué tout au début de l'ouvrage qu'il y a un document qui permettra une progression pour une équipe, en fait. L'idée, c'est pas que l'enseignant tout seul fasse toutes ces séances-là. De manière, on peut pas faire les 55 séances en une année, c'est pas possible. Hein. Il faut faire un tri. L'idée, c'est voilà, une petite équipe d'enseignants se dit, bon, eh bien, moi, ce qui m'intéresse, c'est vrai, au départ, on va faire le parcours de 6 séances. Et puis, peut-être que ça peut être le professeur principal durant l'heure de devoir fait ou l'heure de vie de classe, qui pourrait, parce que nous devoir fait, c'est l'enseignant, c'est le professeur principal qui le fait, pour ça que je dis ça, hein. Mais pourquoi pas durant l'heure de vie de classe, qui s'occuperait des 6 séances. Et puis, après, on fait un choix en équipe par rapport à la classe, où on peut se dire, bah, tiens, finalement, la classe, on va plutôt travailler l'attention sur cette classe-là. Et là, en équipe, on peut se dire, bah, tiens, cette semaine-là, c'est l'enseignant d'anglais qui va faire cette séance-là d'un quart d'heure au début de l'heure. La fois d'après, la semaine d'après, ça peut être l'enseignant d'histoire qui va faire cette séance-là pendant une demi-heure. Et puis la fois d'après, ça peut être la collègue de musique. Bah, moi, finalement, c'est vrai que j'ai qu'une heure la classe, mais je vais passer simplement la capsule vidéo. Et puis, on va en parler entre nous. Et puis, le professeur principal, il complétera par la suite avec le document écrit, la trace écrite, durant cette heure de devoir fait ou d'heure de vie de classe. Donc c'est un travail d'équipe et l'idée c'est que en plus de toutes ces séances là il faut vraiment que ça transpire dans la classe. On a des séances où on va parler de la petite voix, où on va parler de l'image mentale. Il faut vraiment que durant les heures de cours l'enseignant effectivement en reparle. Ça suffit pas simplement de faire ces séances là Moi quand je parle de l'image mentale avec les élèves, ben voilà, quand après je leur dis c'est quoi la définition d'un rectangle, je leur dis, ayez, au moment où vous êtes en train de rechercher dans vos mémoires ce que c'est qu'un rectangle, ayez votre image mentale avec le rectangle, cette petite image-là. Mais je suis pas en train de faire mon cours ou ma séance là-dessus. Je l'ai déjà fait auparavant. Donc voilà, il faut que chacun puisse en prendre un petit bout. Et puis, voilà, bien réfléchir en équipe sur ce qu'on veut faire. Et puis, je pense que si chacun peut faire une petite séance par semaine dans son cours, si on est une équipe de 4-5, finalement, sur une période entre deux vacances, finalement, ça prend quoi, un quart d'heure ou une demi-heure sur son cours.
Oui, pour ajouter, en fait, on a des séances qui font 15 minutes, d'autres qui en font 30, d'autres qui font 45. Ça, c'est affiché, c'est-à-dire qu'on a plus ou moins, après, tout dépend de la place qu'on laisse à la parole de l'élève, on ne peut pas mesurer, déterminer le temps de la séance. Mais un collègue, effectivement, qui ne voit pas souvent les élèves, peut se dire, bon, ben, moi, je me positionne plutôt sur les séances 15 minutes parce que j'ai quand même besoin d'avancer sur mon cours, mon programme, ce que tu disais, Céline. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est qu'il y a aussi des séances qui sont plus ou moins théoriques et d'autres plus ou moins méthodologiques. Donc, il y a des étoiles, en fait, de 1, 2, 3 étoiles en théorie et en méthodologie. Et on peut très bien imaginer que, même en études, il y a des séances très méthodologiques comme comment je peux créer une fiche de mémorisation. Pourquoi et comment faut-il espacer les révisions dans le temps. Et donc là, c'est vraiment des séances de méthodologie. Ce n'est pas juste apprendre comment ça fonctionne au niveau des neurones, quand on apprend, etc. C'est vraiment la méthodologie pure éclairée par la recherche avec des outils qui respectent ce que nous dit la recherche. Et la toute autre chose que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi des séances qui ont une coloration. C'est-à-dire qu'il y a des séances, c'est marqué, on vous conseille de vous associer avec le professeur de lettres, par exemple, pour faire cette séance, parce qu'on travaille sur les émotions, mais on travaille sur l'expression des émotions, donc le vocabulaire des émotions. Ça, c'est quelque chose qui fait partie du programme en lettres, savoir exprimer ses sentiments, ses émotions. Donc, c'est des choses qui peuvent se recouper. On a aussi une séance sur les fake news, sur les infox. Donc là, on peut associer le professeur documentaliste à cette séance. Sur l'inhibition, par exemple, sur les problèmes récurrents, sur les heuristiques, il y a des problèmes qui sont plus liés aux sciences, d'autres aux lettres, d'autres en maths, et donc on peut se répartir comme ça les séances. Donc c'était la richesse aussi, parce que Jérôme, il est en maths, moi je suis en français, donc on a, si on ne couvre pas toutes les disciplines, on avait un regard quand même plus grand que si on était tout seul dans l'écriture de l'ouvrage.
Oui, c'est très intéressant. Ce que j'entends en fait dans ce que vous dites, c'est vraiment le travail en équipe qui permet de pas... En fait, l'excuse du temps, c'est une excuse. Enfin, il y a des solutions pour permettre aux enfants d'apprendre à apprendre. Et ce que j'entends, c'est vraiment travailler en équipe pour se répartir en fait les séances et que certaines séances seront plus adaptées à certaines matières. Et le fait aussi, il n'y a pas que ces séances à proprement parler. Ce qui va être important, j'ai l'impression, c'est aussi de rebondir après, quand c'est le bon moment. Ah, mais vous vous rappelez, quand on avait fait ça, là, c'est le moment d'appliquer en fait ce qu'on avait appris.
Exactement. Si on parle des distracteurs, qu'on est dans l'attention, hein, on a des séances sur les distracteurs externes, les distracteurs internes. Eh bien, au moment où... par exemple, l'élève lève la main, pose une question et se dit « Ah ben, je ne sais plus ce que je voulais dire. » C'est le moment de rebondir sur une des séances qu'on a fait. Mais tu vois, là, tu as eu un distracteur interne qui vient d'arriver, c'est une pensée qui vient d'arriver. Et c'est là tout l'intérêt des séances. Il faut vraiment que ça transpire dans toutes les classes, dans le cours. Il faut vraiment qu'on puisse le vocabulaire qui est mis dans ces séances-là, l'appliquer directement dans les classes.
Ouais, c'est ça qui est vraiment intéressant, que ça transpire dans tous les cours.
Parce qu'on est dans le domaine 2, du socle commun, on sait que c'est un domaine qui a du mal à être mis en place, et pour le coup, il est transversal. Donc on a créé le document vraiment pour que l'équipe elle puisse se poser autour d'un document, le projeter, se dire, je me positionne pour telle séance, quitte à ce que ça soit rempli au fur et à mesure. Donc, ça peut être dans une salle des profs, ça peut être un document mis en ligne, de façon à ce que chacun puisse voir ce qu'il se sent de faire la première année. Et on s'est dit, en créant l'outil déjà pour l'équipe, après, bien sûr, l'idée, c'est qu'il soit repris en main, adapté, mais l'idée, c'est que ça engage vraiment le travail d'équipe. Et puis, on peut très bien imaginer que s'il y a le parcours d'initiation qui est fait en sixième pour tous les élèves de sixième, on sait déjà ce que tous les sixièmes ont eu, et donc, on peut imaginer une progression pas juste annuelle, mais pluriannuelle.
Bien sûr, oui.
Alors, c'est pour le collège, mais on peut très bien imaginer qu'en fin de cycle, en milieu de cycle 3, en CM2, il y a déjà des petites séances qui soient proposées parce que le parcours d'initiation, à peu de choses près, il est adaptable pour les CM1, CM2.
Ouais, ça allait être ma question. Un enseignant de CM1, CM2 qui nous écoute peut tout à fait...
S'approprier quelques séances.
Oui, c'est ça. Un enseignant de CM1, CM2 peut s'approprier les séances, même si à la base, vous avez écrit collège sur l'ouvrage.
Oui, et puis même au début du lycée, hein, parce que...
On a pu.
Voilà, on est vraiment, c'est vraiment transversal. Et puis on a éliminé, c'est ce que Émilie disait tout à l'heure, hein, tout vocabulaire très scientifique du cerveau. On en a gardé, hein, mémoire de travail, les mémoires à long terme. Mais par exemple, l'idée, c'est pas qu'ils retiennent mémoire sémantique, mémoire procédurale. C'est pas vraiment ça l'idée. Ou bien les noms des différents lobes, hein, mais qu'ils comprennent que oui, il y a plusieurs mémoires à long terme, donc. Il y a plusieurs stratégies qui sont différentes pour chacune des mémoires. Tout ça, on l'explique dans les séances. Et voilà, tout vocabulaire vraiment scientifique. Donc, c'est très pratico-pratique. Et donc, des collègues de CM1, CM2 pourraient très bien utiliser. Mais je vais même aller plus loin. Des collègues avant même le cycle 3 pourraient s'inspirer un petit peu de la façon dont on en a expliqué dans certaines séances pour eux l'adapter après avec leurs élèves. Hein.
Mmh. Et notamment sur les trois systèmes de pensée, on sait qu'une vision, c'est un concept faire peur parce qu'il n'est pas simple à saisir. L'idée, c'est de faire vivre aux élèves. Donc, qu'ils sentent vraiment ce que c'est se faire piéger par son système 1. Mmh. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ah ben oui, effectivement, tout le monde s'est fait piéger ou on est nombreux à se faire piéger. Donc, c'est que c'est vrai. Mmh. Et on a expliqué, bon, les vidéos, elles sont là aussi pour vulgariser au plus simple ce contenu. Et puis, voir comment on peut, après, concrètement en classe, OK, système 1, système 2, mais... En classe, comment ça se traduit, et c'est pour ça qu'on a fait pas mal d'exemples concrets en classe, de situations où on doit inhiber, en repartant des heuristiques qui avaient déjà été répertoriées par les labos, notamment, par le LabCD, et puis le lien avec les fake news, puisque en fait, on va aborder le fait de résister aux infox, aux fake news, parce qu'il faut inhiber le fait d'avoir envie de croire en une information sensationnelle. Et ça, c'est le fruit d'un travail qu'on a effectué sur Léa.fr, là, pendant la semaine de la presse, avec Christophe Mousset, qui est professeur documentaliste, et puis Marine Lemaire, qui est doctorante au LabCD, qui donc vous avait demandé d'écrire une séance, enfin deux séances, en fait, une séance pure EMI, éducation aux médias, et une séance EMI plus expliquer aux élèves les trois systèmes de pensée. Et l'idée, c'était de voir, en fonction des groupes, s'ils résistaient mieux aux infox, s'ils avaient juste eu la séance EMI ou la séance EMI plus infox. Enfin, plus, pardon, inhibition. Et donc, on a fait en sorte de pouvoir intégrer cette séance dans l'ouvrage parce que quand on parle du concret, on comprend mieux cette histoire des trois systèmes, se dire... Ah ben c'est pas parce que l'information, alors là on fait travailler les élèves sur le blob, un blob qui aurait dévoré un enfant de 8 ans, et ben ça fait peur, donc on peut se dire, oh là là, mais c'est ce que c'est vrai, en même temps le blob c'est mystérieux, et puis ben on leur apprend comment on résiste à ça pour aller vraiment mettre une démarche analytique, d'aller chercher le nom d'auteur, le site, etc. Ce qui se fait déjà en EMI, mais juste avoir l'alerte de se dire, oh là là, attention, je suis en train de me faire avoir par mon système 1. Et peut-être que ça marche, parce que quand même de temps en temps ça fonctionne le système 1, mais peut-être qu'il faudrait que je m'en méfie quand même un petit peu et que je bascule dans le système 2 grâce au système 1.
Bon, vous parlez à une convaincue, parce que voilà, apprendre à apprendre, je suis convaincue que c'est vraiment indispensable. Et j'avais d'ailleurs fait 6 séances dans la classe de ma collègue en CM2. Et j'avais utilisé tes vidéos, enfin une, je me rappelle, je crois que c'était la vidéo sur l'attention, Jérôme, je crois que c'est celle-là que j'avais utilisée. Et je propose aussi du coup un programme pour les parents à la maison, pour aider leurs enfants à apprendre à apprendre. Donc voilà, vous parlez à une convaincue. Mais si vous rencontriez un enseignant qui vous dit « Non, mais apprendre à apprendre, j'ai pas le temps, ça sert à rien, moi je suis prof d'anglais et je suis là pour leur apprendre à parler anglais, apprendre à apprendre ça sert à rien ». Comment vous réagiriez et qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire?
Je pense qu'il pourrait gagner du temps justement en leur mettant en place ces séances-là. Parce qu'à un moment donné, il va leur parler des mémoires, il va leur parler mais mémoriser, soyez attentifs. Et ce temps qui va passer à leur dire mais vous n'avez pas assez bien mémorisé ou comment vous faites ou voilà, là il va le regagner en l'expliquant aux élèves des stratégies qui sont efficaces pour bien mémoriser, pour essayer d'être un peu plus attentif. Donc, cette perte de temps, il y gagnera, en fait. Il y gagnera en faisant ces séances-là. Et puis, les élèves sont friands aussi de ça. Ils adorent qu'on leur parle du cerveau. Et c'est même, du coup, une limite qu'il faut avoir, enfin, qu'il faut penser lorsqu'on fait ces séances-là, c'est de ne pas se laisser déborder par les élèves. C'est la remarque qu'on a eue lorsqu'il y a eu ces 6 séances-là sur le forum, des enseignants qui nous ont dit oui, mais ça nous a pris un peu plus de temps. Mais oui, mais en fait, quand on regarde, quand on va un peu plus loin dans les commentaires, on se rend compte que c'est parce que les élèves ont été vraiment très demandeurs voilà, de savoir comment je peux faire pour mieux mémoriser. On a par exemple une séance où on donne plein de techniques de mémorisation et on leur demande de classer. Voilà, d'après vous, laquelle c'est la plus efficace. Et en fait, on se rend compte qu'ils utilisent des techniques qui ne sont pas du tout les plus efficaces, d'où l'importance de leur enseigner très explicitement. Emilie en parlait tout à l'heure, hein, c'est ça l'égalité des chances. Hein. C'est permettre à des élèves qui ne découvriront pas par eux-mêmes ces techniques-là, eh bien, je pense qu'il faut vraiment leur enseigner. Et puis ça fait partie du domaine 2 du socle, hein. Il ne faut pas l'oublier non plus, hein. On est là pour enseigner le socle commun. Donc, et toutes les matières doivent y contribuer. Alors, il y a son programme, mais il y a aussi le socle commun.
Émilie, hein, tu voulais pas rebondir? Non, non.
Oui, par exemple, moi je pense souvent au conseil de classe, ce qu'on peut lire dans les bulletins, cet élève gagnerait à être plus attentif, cet élève doit même mieux mémoriser ses sons, etc. Et c'est sans jugement de ma part, mais parce que j'ai surtout pu écrire ça moi aussi quand j'ai été prof, quand j'ai commencé, que j'avais pas cette connaissance-là. Si on se met à la place de l'élève, ok, donc il faut que je sois plus attentif. Mais comment? Ok, il faut que je mémorise mieux mes sons. Mais comment? Dire ça, c'est une chose, ça pose un fait qui ne va pas, on va mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Mais ça n'accompagne pas l'élève pour autant. L'élève qui de lui-même n'est pas attentif ou ne sait pas mémoriser, puisqu'on en est au constat de l'écrire sur son bulletin, c'est que ce qu'il a mis en place, ça ne marche pas. Ok, est-ce qu'on le laisse du coup tout seul en lui disant juste ce qu'il faut faire, ou alors on lui présente des outils parce que s'il n'a pas réussi seul ou parce que son environnement social, parental ne lui a pas permis de le mettre en place, qu'est-ce qui nous dit que juste en lui écrivant son bulletin, ça va permettre une révolution de sa posture? J'y crois pas. Je pense que là, on parle entre collègues convaincus de ça. Mais en même temps, le collègue, il n'a pas forcément ni le temps, ni le pouvoir de traduire ce qui se dit au niveau de la recherche. Donc l'idée, c'était, OK, face à des élèves qui ont un problème d'attention, bah, peut-être qu'il faut mettre un temps de remédiation avec toute la classe, peut-être juste ces élèves-là, qui après le conseil de classe, bon, on a quand même, si j'analyse 10 bulletins dans la classe, oui, il y a un problème d'attention. OK, bon, bah, ces élèves-là, en AP, en devoir fait, on peut dégager du temps pour la remédiation parce qu'on est aussi là pour ça. Et ben on va travailler l'attention ensemble. Il y a un autre groupe, c'est plutôt la mémorisation. Ben on va y aller. Si c'est au niveau de l'émotion, parce qu'on sait qu'au collège, il se passe tellement de choses au niveau des émotions à l'adolescence, et on met vraiment l'accent sur les émotions, voilà ce que c'est une émotion, et exactement ce qui se passe à l'adolescence, parce que c'est souvent très peu connu par les enseignants, par les parents, par les adolescents eux-mêmes. Il se passe des choses qui les dépassent. Et savoir pourquoi on se comporte différemment à l'adolescence que quand on est enfant ou adulte, savoir qu'il y a une prise de risque plus importante en présence des pairs et que c'est prouvé scientifiquement et c'est pas juste mon enfant qui devient comme ça, là, qu'est-ce que je vais faire, mais que non, ça fait partie de son développement, et ben c'est très important pour les parents, mais c'est aussi très important pour les adultes, de manière à prendre un peu de recul sur ce qui se passe. Donc, par rapport aux collègues qui disent, oui, ben, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Effectivement, je pense que j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Mais si on fait le programme à toute vitesse et qu'il reste rien à la fin de l'année,
Ça
bon,
sert à
ben,
rien.
voilà.
Et je pense qu'une per un prof des écoles ou un prof de collège qui note manque problème d'attention, problème de mémorisation, c'est qu'en fait il s'arrête au constat, mais qu'il n'a pas les clés pour aider les enfants derrière. Et je pense que c'est notre responsabilité de bah, d'apporter ces clés aux enfants, pas juste de faire un constat qui va décourager l'enfant et sans l'aider quoi.
Mais dans
C'est
un
pour ça
réel.
qu'aussi, c'est pour ça aussi que cet ouvrage-là, qui est pour les enseignants, pour expliquer aux élèves comment apprendre, mais c'est aussi pour des enseignants qui en fait ne connaissent rien dans les sciences cognitives, ne savent pas vraiment, voilà, les techniques, les meilleures techniques pour mémoriser, ne savent pas ce que c'est que l'attention. Mais même nous, hein, quand on a voulu donner une définition de ce que c'est qu'une émotion, on a eu du mal à trouver une vraie définition simple, claire, pour définir ce qu'est une émotion. Donc, même pour les enseignants qui, voilà, qui connaissent pas tout ça, c'est un ouvrage aussi pour eux, parce qu'ils pourront aussi apprendre en se mettant à la place de, voilà, de l'élève, en disant, ah, mais c'est ça que l'élève doit savoir, ah, mais c'est ça, Voilà, d'accord, je comprends mieux pourquoi il réagit comme ça face à une émotion. Je comprends mieux pourquoi on a tous des élèves qui travaillent quand même, mais qui n'ont pas forcément les résultats qu'il faut. Mais c'est parce qu'ils ne mettent pas forcément les bonnes méthodes en place à la maison. Ah, mais je comprends maintenant pourquoi l'élève, bah, voilà, s'il dort que 6 heures par nuit, bah, et le lendemain matin, au niveau de l'attention, il peut pas être là ou il a mal mémorisé. Parce que voilà, on sait que le sommeil, c'est bon pour l'attention, c'est bon pour la mémorisation. Et là, on a des séances pour ça, directement pour expliquer aux enfants ça. Et donc, en tant qu'enseignant, c'est aussi un ouvrage pour eux, en fait, pour apprendre aussi.
Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez de l'idée, si un enseignant de maternelle, un prof des écoles en maternelle nous écoute et qu'il se dit, ah oui, mais moi, ils sont petits encore, mais je pense que c'est maintenant qu'il faut commencer. Qu'est-ce que vous en pensez?
Il a raison.
Ouais.
Il a raison. Il n'y a pas encore de ressources éditées. Il y a quand même des ressources qui vont arriver en plus sur le site des comités, sur science-comités.fr. Il va y avoir des ressources pour les maternelles parce qu'il y a un groupe qui travaille là-dessus en ce moment. Mais je pense que c'est des choses qui vont vite voir le jour.
Ouais. Donc c'est vraiment
Oui.
indispensable d'offrir l'opportunité aux élèves.
Notamment sur les fonctions exécutives.
Voilà,
Enfin.
même quand ils sont petits, alors en adaptant évidemment, mais qu'ils aient des connaissances sur comment fonctionne leur cerveau et voilà, comment apprendre.
On a des séances sur, par exemple, comment prendre soin de son cerveau, voilà, sur le fait de prendre un petit déjeuner équilibré, bien dormir. Donc pareil, on peut s'inspirer de ce qu'on a écrit, hein, aussi pour les enseignants de maternelle. Mais oui, dès la maternelle, dès tout petit, il faut leur parler du cerveau avec des mots très simples, hein. Ça c'est clair, et en plus ils adorent, ils adorent.
Et on a quand même un rêve, enfin, que ça devienne parce que tout à l'heure on parlait du programme disciplinaire, etc. Mais puisque c'est dans le SOC, c'est inscrit, on a des recherches, on sait que c'est le domaine 2, on sait que c'est nécessaire, ben, qu'à un moment donné, peut-être que dans un emploi du temps de l'élève, ça fasse partie de son emploi du temps, de son parcours, et qu'il y ait une vraie progression, un vrai programme. Sur plusieurs années, mais que ça soit inscrit, c'est-à-dire que ça soit pas dépendant de l'envie d'un enseignant, de la conviction d'un enseignant, de dire, ah, bah oui, ça a l'air intéressant, ah, bah oui, il y a des travaux de recherche, et je suis tombée par hasard sur le bouquin, et donc je l'ai mis en place, ou parce que j'ai suivi un DU, etc., mais que, bah, en fait, ça fasse partie, des incontournables de l'école. Lire, écrire, compter, etc., ok, apprendre.
C'est sûr,
Ouais,
ça.
c'est la petite anecdote. Mon papa, qui a 76 ans, me dit, mais moi, je regrette qu'une chose, c'est qu'à l'école, on m'a jamais appris à apprendre. Alors, d'autant plus à son époque. Hein. Et c'est quand même dans les compétences du 21e siècle, une compétence nécessaire, parce que comme le monde est en permanente évolution, il faut savoir s'adapter. Et donc, d'une compétence déjà acquise, il faut savoir comment je peux en acquérir une autre. Parfois seul, parfois en étant éclairé par des pairs ou par des personnes qui m'ont enseigné quelque chose. Mais cet outil-là, savoir de soi-même comment apprendre, c'est un des outils pour moi qui est les plus importants, à part bien sûr l'école au niveau des fondamentaux. Je ne suis pas en train de dire non, mais ça ne sert à rien de lire et de compter. Les fondamentaux et toute l'ouverture culturelle, sociale que propose l'école. Mais pour s'adapter au 21e siècle, que les élèves puissent. Ben faire face aux questions qui ne se posent pas encore aujourd'hui, mais qui vont se poser demain, je crois que c'est nécessaire de les outiller. Et pour l'instant, ben on les outille comme on peut. Mais là, on les outille avec ce qui fait consensus au niveau scientifique. Donc, on a déjà un garant plus fort. Là, par exemple, sur les séances dont parlait Jérôme, sur les besoins du cerveau, on s'appuie sur les travaux du Cézanne. Enfin, on a croisé les regards aussi.
Ouais, c'est génial. Et apprendre, ça s'arrête pas une fois qu'on a le bac ou une fois qu'on a fini nos études supérieures. Dans la vie, enfin jusqu'à notre mort, en fait, on a besoin d'apprendre. Et c'est tellement enthousiasmant d'apprendre des nouvelles choses et de savoir comment s'y prendre. C'est ça qui est génial, en fait. Et quand vous
Ça ne
parlez
s'arrête pas à l'évaluation. Souvent,
de...
l'élève, il apprend pour l'évaluation. Mais là, quand on
Exactement.
est étudiant, on n'apprend pas pour l'évaluation et qu'il doit falloir
Ouais.
beaucoup plus de temps.
Et vous parliez d'état d'esprit fixe et d'état d'esprit dynamique tout à l'heure, et j'ai lu hier une étude, alors j'ai pas les références en tête, mais ah si, c'est Julia Volkmann qui en parlait, une étude qui a montré que les mamans qui avaient un état d'esprit dynamique, les enfants qui avaient ces mamans-là géraient mieux leur stress que les enfants qui avaient des mamans avec un état d'esprit fixe. Donc, je veux dire, les conséquences, elles sont super larges, en fait.
Oui, on a deux vidéos, on a vraiment, enfin, deux séances spécifiques sur cet état d'esprit, quel état d'esprit cultiver pour bien apprendre. Et d'ailleurs, on a appris nos filles, parce que c'est vraiment, il y a Émilie, il y a moi, on fait les voix, mais il y a aussi, surtout, nos enfants aussi, pour que ça donne un peu plus de, voilà, de concret, de parlant. Ma fille qui est en cinquième, toi, Émilie, qui est en sixième. Et donc, on a des voix aussi d'enfants dans les vidéos qui parlent davantage aux élèves pour l'avoir testé en classe. On dit, ah, mais vraiment, ça prend plus de sens. Et on a deux enfants, hein, qui a un état d'esprit fixe, un autre qui a un état d'esprit donc de croissance dynamique. Et puis, bah, voilà, ils sont en train de voilà, d'échanger en disant, bah, moi, finalement, hier, je pensais avoir appris ma leçon. Et puis, je me suis rendu compte que non. Et puis, bah, voilà, est-ce que c'est vraiment parce que je suis nul, tu crois? Donc, dans la vidéo, on met, tiens, état d'esprit fixe. Puis l'autre enfant explique, mais non, c'est parce que tu t'es pas testé, t'as pas essayé, t'inquiète pas, une erreur, c'est pas un échec. Moi aussi, je me trompe parfois, mais c'est parce que t'as pas les bonnes méthodes. Alors, je vais t'expliquer comment on peut faire pour essayer d'y arriver. Et puis voilà, il y a un échange qui se fait. Et donc, voilà, on a un enfant qui explique à un autre que oui, bah, on apprend en se trompant, ça fait partie voilà, de l'apprentissage, que c'est pas une fatalité. Donc c'est tout ça qu'on explique dans les vidéos. Une chose aussi qu'on n'a pas dit, c'est que moi je passe beaucoup de temps dans les vidéos, c'est que à la fin des vidéos, on a refait exactement comme dans la chaîne Cerveau Mode d'Emploi. On sait qu'on est un peu passif quand on est face à une vidéo, et pour rendre la vidéo un peu plus active, enfin les enfants qui regardent la vidéo, pour les rendre un peu plus actifs, eh bien à la fin on pose trois questions en lien avec la vidéo. À chaque fois, voilà, une petite question, il y a un tic-tac, on fait une pause, on interroge les enfants, on retire la pause, et puis il y a la réponse qui s'affiche. Voilà, donc on met vraiment en place tout ce qu'on a appris, des sciences cognitives, c'est appliqué là dans l'ouvrage, dans les vidéos.
C'est isomorphique.
Ouais, c'est chouette, et du coup ça me fait penser au pilier de l'apprentissage de Stanislas Dehaene, l'attention, l'engagement actif, le retour sur erreur. Et j'en profite pour vous en parler. Grégoire Borst, l'autre jour pendant le dernier cours, là, pendant la table ronde, disait, enfin, comment dire, avait un regard plutôt pas critique, mais voilà, ne partageait pas forcément le point de vue de Stanislas Dehaene sur ces quatre piliers. Mais en fait, ce que j'ai l'impression d'avoir compris, c'est que pour lui, il n'y en a pas que quatre. Et c'est ça, en fait, qui l'embête dans les quatre piliers de l'apprentissage. C'est que il dit, enfin, voilà, donc ces quatre piliers sont bien réels, mais il ne parle pas des compétences psychosociales, de plein d'autres choses, en fait, des mémoires. Pour lui, j'ai l'impression qu'il manquait des choses, en fait. Est-ce que vous avez déjà voilà, réfléchi tous les deux, enfin, échangé sur ce sujet des piliers de l'apprentissage ?
Alors disons que les piliers de l'apprentissage, moi je mets en place des formations dans l'Académie d'Amiens, c'est vrai que ça permet d'aborder les sciences cognitives de façon simple.
Oui.
Mais une fois qu'on a mis un pied dedans, on se rend compte qu'effectivement, il faut aller au-delà des quatre piliers. Dans les quatre piliers, dans le dernier pilier, hein, c'est l'automatisation, c'est le fait de passer d'informations qui sont à l'avant du cerveau dans la mémoire de travail vers les mémoires à long terme qui sont plutôt situées vers l'arrière. Mais on sait que c'est pas simplement ça, en fait, apprendre, être intelligent, ça va au-delà de ça. Et l'inhibition est là aussi, hein. L'inhibition, c'est un peu finalement un peu le contraire. On a des automatismes qui sont à l'arrière, il faut être en capacité de les bloquer, donc retourner à l'avant. Et puis, bah, les émotions pour apprendre, c'est aussi très important. Et ça, dans les quatre piliers, on n'en parle pas. Mais voilà, les quatre piliers ont l'avantage d'aborder de façon simple les sciences cognitives pour un premier démarrage. Mais il faut aller par la suite. C'est vrai qu'il faut aller plus loin. Donc, comme disait Grégoire Borst, oui, plus loin, les émotions.
Les fonctions exécutives.
Facteurs psychosociaux, fonctions exécutives, tout ça. Mais ça peut être un bon début.
Oui, ça a le mérite de simplifier un peu les choses et de rendre les choses concrètes.
L'idée, c'est de réfléchir sur les compétences qu'il faut développer chez les élèves pour les préparer à agir dans la société qui va se dessiner avec eux. Et en 2022, effectivement, l'idée, c'était de proposer 6 trajectoires d'apprentissage, apprendre à connaître et penser, apprendre à faire et à évaluer, apprendre à apprendre, apprendre à vivre ensemble, apprendre à vivre avec la nature et apprendre à être. Donc là, on est sur quelque chose de plus global, en fait. en fait, le point de vue sur la question n'est pas le même parce qu'il n'est pas au niveau, au même niveau. On est dans un niveau méta, c'est-à-dire qu'il veut apprendre en général, puisque sur les quatre piliers d'apprentissage, on est sur un apprentissage pour un des fondamentaux, par exemple, il faut s'engager activement, etc. Là, on est sur apprendre de manière plus globale.
Oui, d'accord. Enfin,
dans le même niveau de lecture.
Bah, je vous remercie beaucoup parce que c'était vraiment, ça donne envie de lire l'ouvrage. Est-ce que vous pouvez me rappeler la date de parution ?
Le 26 mai 2022.
Voilà, donc 26 mai, on va tous le commander pour le lire et on va terminer l'épisode, si vous êtes d'accord, par les trois questions habituelles que je pose à mes invités. Donc à vous de voir, soit vous, voilà, pas de panique Émilie, peut-être que si vous avez l'élan, allez-y, sinon on passe à la suivante, il n'y a pas d'obligation. Donc est-ce que vous auriez, on commence par la plus compliquée, une citation à nous proposer ?
Moi je veux bien. Je l'ai dit la dernière fois et je le répète parce que ça va vraiment avec cet ouvrage « Enseigner aux élèves comment apprendre », c'est « Connais-toi toi-même ». Parce que c'est très important pour la suite, pour tout, pour apprendre, mais pour au-delà d'apprendre aussi, pour la vie de tous les jours, apprendre à connaître ses limites, apprendre à les dépasser. Voilà, c'est quelque chose que je dis très souvent avec les élèves et je continue à le dire. Connais-toi toi-même.
Merci Jérôme. Habituellement, je demande aussi de partager un livre. Alors, Émilie, plutôt citation, plutôt livre ?
Alors, plutôt livre, parce que j'ai découvert... bon, on en avait déjà parlé, c'est lui, mais on a une grande affiliation toutes les deux avec Maria Montessori. Et j'ai découvert un autre grand pédagogue pendant l'écriture de l'ouvrage. Et alors, je n'ai pas eu le temps de m'y consacrer totalement. Mais il s'agit de Janusz Korczak, qui est un des premiers à avoir écrit des droits pour les enfants. Alors, c'est en Pologne, à Varsovie. Et puis, il a un engagement qui n'est pas juste intellectuel. Hein. Il est allé jusque dans les camps de la mort avec les enfants orphelins dont il s'occupait. Et je me dis, on est loin de ça, mais notre engagement, il est réel, il est profond. On voudrait faire avancer les choses pour aider ceux qui en ont le plus besoin. Et il a écrit plusieurs ouvrages, notamment « Le droit de l'enfant au respect » ou « Comment aimer un enfant ». Et c'est un des premiers parce que ça date. Et je ne sais pas d'ailleurs s'il a connu Maria Montessori, mais je vais me pencher un petit peu plus. Donc, c'est grâce à la maîtresse d'une de mes filles qui a fait étudier ce texte. Donc, je remercie les enseignants de m'ouvrir et de m'apprendre plein de choses aussi sur la pédagogie. Enfin, lui, il était médecin pédiatre, mais c'était vraiment surprendre, considérer vraiment l'enfant pour ce qu'il est. Et l'enfant... nous on est vraiment sur les adolescents et on sait que c'est un petit peu, bon, il se passe beaucoup de choses pour les tout petits, pas mal de choses à l'école élémentaire, mais alors les adolescents c'est pas le public le plus simple et donc les études sont assez récentes sur ce qu'est un adolescent, ce qui est spécifique à l'adolescence et notre combat quand même il porte sur ce public là qui est le nôtre parce qu'on l'a choisi et donc voilà, j'orienterai vers des ouvrages de Janusz Korczak. Voilà. Mais j'en reparlerai à l'occasion.
Oui, oui. Et on va terminer avec soit un coup de cœur, soit un coup de gueule.
Oula.
Pas facile. Bah, Émilie, le coup de cœur que tu viens de partager, c'est la maîtresse de ta fille qui t'a fait découvrir ce texte.
Voilà. Merci à la directrice de l'école qui est enseignante également, professeure des écoles, de ma fiancée Anouma. À l'école de ma reine, Aurélie, si tu m'entends.
Jérôme, tu as bien un coup de cœur à nous partager. Je sens que tu vas plus choisir le coup de cœur que le coup de gueule.
Un coup de cœur à partager. Je vais dire ma partenaire avec qui j'ai écrit le livre, Émilie. Voilà, c'est mon coup de cœur. Mon coup de cœur des 6 derniers mois. Parce que j'ai pas vraiment d'autre idée. Hein. Non, c'est parce que c'est vrai, en fait.
Voilà. Ça doit être. Bon, alors attends, je me parais con, là, pardon. Moi aussi, j'ai un coup de cœur pour mon co-auteur.
Et puis oui, puis Marie Létan, et puis Stéphanie aussi qui nous ont suivis, Grégoire Borst, tout ça, c'est une équipe formidable, parce que c'était notre premier ouvrage aussi, on a passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, tous les soirs à travailler, voilà, c'est un vrai plaisir, on a hâte que l'ouvrage sorte pour avoir les retours des collègues, de tout le monde, pour voir un petit peu ce qu'ils en pensent, on a hâte vraiment de partager tout ça. J'ai beaucoup de collègues, je dans beaucoup d'établissements, je commence déjà à en parler. Ils me disent, mais on a hâte aussi vraiment de voir. Mais nous, on a hâte du retour quand même.
J'imagine. Et je voulais vous inviter à nouveau sur le podcast parce que le nombre d'écoutes ne fait qu'augmenter et je trouve que c'était un moyen de faire découvrir votre travail. Donc, merci d'avoir accepté cette deuxième invitation.
Merci aussi.
Merci à toi, Céline.
Si vous avez conscience qu'un changement de posture est nécessaire et si vous cherchez du soutien pour faire évoluer votre pratique vers la pédagogie Montessori, l'abonnement mensuel 2 heures pour ma classe vous permettra de découvrir les piliers de la pédagogie Montessori. Je vais créer des dossiers collaboratifs que vous exploiterez à votre rythme. Et dans un deuxième temps, nous échangerons en visio 2 heures par mois pour répondre à vos questions et passer de la théorie à la pratique. D'où le nom 2 heures pour ma classe. Vous trouverez toutes les informations sur mon blog montessori-apprendreautrement.com. À la semaine prochaine !